Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Pierre Plantier.
Bonjour, bonsoir. C'est une fresque historique et politique, mais aussi intime et familiale. Un roman qui raconte le destin d'un grand cinéaste colombien, Sergio Cabrera, un enfant du XXe siècle et en même temps un enfant de ses parents, exilés républicains qui ont fui le franquisme jusqu'en Amérique latine. Son histoire, c'est celle d'un idéal transmis par ces derniers, artistes de théâtre engagés et maoïstes convaincus, qui l'emmèneront d'ailleurs à prendre la révolution dans le Pékin de la révolution culturelle. Avec sa sœur Marianela, il en deviendra un zélé garde rouge avant de retourner dans sa Colombie natale et d'entrer en clandestinité dans la guérilla marxiste EPL. Une histoire couleur rouge sang, entre espoirs, illusions et déceptions. Une histoire individuelle, mais qui se mêle au grand mouvement collectif de la seconde moitié du XXe siècle, de la guerre d'Espagne à la France de 68, en passant par la Chine et la Colombie. Une rétrospective, le dernier roman de Juan Gabriel Vázquez, traduit de l'espagnol par Isabelle Gugnon et paru en français aux éditions du Seuil. Et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Juan Gabriel Vázquez.
Bonjour.
Dans quelles circonstances avez-vous rencontré Sergio Cabrera ?
On est des amis depuis le début du siècle. On a partagé des festivals de littérature, de cinéma colombien. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, je crois, en 2002. Mais ce n'est que 10 ans plus tard, quand on est rentrés tous les deux en même temps en Colombie. Moi, je venais de 16 ans d'habiter en Europe, Paris et Barcelone ensuite. Et lui, il venait de Madrid. Et on s'est rencontrés à Bogota. On est devenus plus proches. On a commencé à avoir des dîners avec d'autres amis à Bogota. Et au fur et à mesure qu'on parlait, qu'il intervenait dans ces conversations casuelles, je me suis rendu compte que sa vie n'était pas seulement une vie intéressante, ce n'était pas seulement une sorte d'aventure, mais aussi que ça racontait quelque chose de vraiment important, que la vie qu'il avait menée, qu'il était plutôt secrète, personne ne la connaissait pas en Colombie. Et je me suis rendu compte que ça racontait quelque chose de très important, non seulement pour la Colombie, mais pour l'histoire du XXe siècle.
Et donc c'est à ce moment-là que vous vous êtes dit, il faut que je la raconte moi-même, cette vie de Sergio Cabrera, une vie romanesque.
Oui, c'est ce que j'ai proposé. Je lui ai proposé de raconter sa vie, je ne savais pas comment. Je ne savais pas que le roman était le genre qui convenait. Je me suis dit, il faut que quelqu'un écrive cette histoire et bon, j'aimais l'idée que ce soit moi. Mais dans quel genre ? Et ça a été une énorme question parce qu'on aurait pu choisir une biographie, un livre d'histoire, une chronique, une série d'interviews. Et voilà, très lentement, je me suis rendu compte qu'il y avait un côté de son histoire visible qui était invisible et qu'il fallait raconter à travers un roman. Le roman était le seul genre qui pouvait faire ça.
Cela signifie, Juan Gabriel Vázquez, que pour vous, le roman, c'est un bon outil pour raconter l'histoire, évidemment, de façon passionnante, avec des péripéties, mais aussi pour éclairer l'histoire, cette fois-ci avec un grand H.
Oui, j'ai toujours cru que, pour moi, le roman est l'endroit privilégié où on peut examiner ce qui se passe quand les forces de l'histoire, les forces de la politique, qui sont mystérieuses, qui bougent de façon imprévisible, rencontrent les vies privées, les vies intimes, et les bouleversent. Et les romans que j'ai faits jusqu'à maintenant sont toujours, poursuivent toujours cette obsession, non ? Raconter le privé, la rencontre du privé et de l'intime.
Alors à la fin du livre, il y a une note qui commence par cette phrase, une rétrospective, donc c'est le titre français de votre livre. Une rétrospective est une œuvre de fiction, mais elle ne contient aucun épisode imaginaire.
C'est
Alors là, on est vraiment au cœur, finalement, de votre travail, Juan Gabriel Vázquez. Et vous ajoutez qu'il y a là, pour vous, aucun paradoxe. Ça peut surprendre, quand même.
Oui, je suis le premier surpris. Mais j'ai trouvé dans un dictionnaire colombien du 19e siècle... Une sorte de justification. Il y a là une vieille définition du mot fingir. C'est le verbe qu'on associe en espagnol à la fiction. Et dans les définitions du mot fingir, il y a une qui dit que le verbe est applicable à l'art de modeler. Par exemple, dans le cas de la sculpture ou la taille de bois. Et je me suis dit, c'est exactement ce que je viens de faire avec la vie de Sergio Cabrera. J'ai pris un énorme, une énorme montagne de matériaux et j'ai enlevé tout ce qui ne marchait pas pour trouver à l'intérieur de la figure la figure de la vie de Sergio Cabrera.
Et donc c'est la mise en perspective, c'est la capacité à interpréter les faits et à les mettre en relief en quelque sorte qui fait romanesque, qui fait roman, qui fait fiction.
C'est ça, c'est ça. C'est la, la réimagination d'une destinée qui n'est pas la mienne. C'est la, l'essai de lire quelqu'un d'autre, d'interpréter quelqu'un d'autre. Moi, j'aime bien me souvenir d'un, d'un passage dans le dernier tome de La recherche du temps perdu de Proust où le narrateur Marcel dit que l'écrivain n'a rien inventé parce qu'il a déjà un livre à l'intérieur et il faut qu'il traduise ce livre. Donc la tâche du romancier est celle d'un traducteur. C'est ce que je fais avec la vie de Sergio Cabrera et sa famille.
Mais alors justement, quel compagnonnage à ce moment-là dans ce contexte entre fiction et vérité? Vous parliez de sculpture à l'instant, Juan Gabriel Vázquez. Est-ce que ça veut dire que vous octroyez le droit de déformer, de distordre la vérité pour mieux la reformer?
Alors, je tiens à souligner qu'il n'y a aucun fait extérieur, pour ainsi dire, qui soit inventé dans le roman. C'est-à-dire, tout ce qui se passe dans le roman est vraiment passé, ou en tout cas, c'est comme ça que Sergio a le souvenir de sa vie. Sergio, Marianella, d'autres témoins que j'ai interviewés.
Après, c'est une question de point de vue.
C'est une question de point de vue, juste. Et aussi, c'est une question de dire tout ce que les faits ne disent pas. C'est-à-dire, si on aurait pu écrire une biographie avec la vie de Sergio Cabrera, si on aurait pu écrire un livre d'histoire, une chronique, le roman essaye de dire quelque chose qui ne peut pas être dit d'une autre façon, dans un autre genre. Ça veut dire aller dans l'âme des choses, pour ainsi dire, aller du côté l'examen émotionnel, moral, psychologique de ces personnages qui bougent dans un monde très, très physique, très réel.
Alors, vous l'avez bâti à partir de quel matériau, ce roman? Il y a eu donc des conversations, elles ont été très nombreuses avec Sergio, avec sa sœur aussi, Marianella. Vous avez fait des interviews, c'était très très formel, ou au contraire, c'est venu comme ça, au fur et à mesure, dans le cadre de cette amitié que vous entretenez?
C'était informel, d'abord, mais à un moment, quand j'ai décidé que c'était un livre, que j'avais un livre entre les mains, j'ai mis des rendez-vous, on s'est discipliné un peu, on a enregistré les conversations.
Ah, c'est important de les enregistrer.
Oui. Moi, j'ai fait toute une transcription de tout ce qu'il m'avait dit pour utiliser comme une sorte de magma. Et à partir de là, essayer de trouver la figure, comme je disais avant. Et donc, il y a eu d'abord un travail de journaliste que j'aime bien. Je me suis rendu compte que ma méthode part d'un travail de journaliste. Mmh. On fait des interviews, on va dans des endroits pour voir comment ça se passe, quelle ambiance a dans les endroits où le roman va se passer.
Donc vous avez suivi les traces de vos personnages?
Oui, je suis allé en Chine. J'ai profité de deux voyages en Chine pour faire des enquêtes sur mes personnages et le vie passée de mes personnages. Et après le travail de journaliste, il y a le travail de l'historien. Donc je fais des recherches sur l'époque que je vais raconter, pour ne pas me tromper, bien sûr, pour comprendre les enjeux politiques, sociaux qu'il y a pour les personnages à cette époque. Et c'est à la fin de tout ce processus que je commence à écrire. Je m'enferme dans mon studio et je commence à écrire du point de vue du romancier et avec la tâche de dire tout ce que le matériau que j'ai trouvé jusqu'à maintenant n'a pas dit.
Alors, un matériau vraiment impressionnant, ne serait-ce que par son volume.
Oui.
Discipline, donc vous vous enfermez, vous le disiez, Juan Gabriel Vázquez, discipline monacale, on a un peu l'impression, et vu la somme d'informations et de matériaux que vous aviez, pour pouvoir mettre tout ça en forme, je crois que le Covid, l'épidémie, ça vous a un petit peu aidé quand même pour le coup.
C'est vrai, c'est vrai. Moi, je n'ai pas été le premier à avoir le Covid en Colombie, mais j'étais le deuxième, certainement. Oui. J'étais certainement un des premiers. C'était fin du mois de février. Et ça, on s'est inquiété un peu. Personne ne savait comment ça...
Oui, c'était une période. Effectivement, on ne savait pas trop quand
Elle
allait se terminer et jusqu'où elle allait aller.
C'est ça. Et j'ai eu la destinée assez triste d'être contagié par un ami qui est mort ensuite, l'écrivain chilien Luis Sepúlveda. Donc, je suis rentré en Colombie avec le Covid. Ça s'est bien passé par la suite, mais je suis resté donc avec la tranquillité d'être déjà passé par les choses les plus graves et avec tout le confinement devant moi et toute la pandémie devant moi. C'était des mois donc d'une concentration, d'un niveau d'intimité avec mon histoire, avec mon travail et mes personnages que j'avais jamais connu, et aussi un niveau de solitude que j'avais jamais connu jusqu'à ce moment-là. Et ça m'a aidé. Le livre a donné de l'équilibre à une vie qui passait par des moments difficiles. Le livre a donné de l'ordre à une vie qui marchait dans les désordres de la maladie, de l'incertitude, de voir les gens souffrir dans le monde entier. Et bon, voilà, je crois que c'est la seule explication pour que j'ai fait un livre de 500 pages en 9 mois.
Silbando siempre esta nueva canción. Tu fusil amor es la música más libre bajo el sol. Es sangre y es futuro del amor. Tu fusil amor. Descanso vivirá silbando siempre esta canción del sol. Tu fusil amor es la música más libre bajo el sol. Es sangre y es futuro del amor. Tu fusil, amor.
Este viento, amor, que con nosotros caminando va. Por cada grito de la guerra que se da, el grito de la nueva libertad.
Este viento, amor.
Ana et Jaime dans VMDN sur RFI avec Juan Gabriel Vasquez pour son roman Une rétrospective paru aux éditions du Seuil. Alors le fil rouge de votre récit, c'est le séjour à Barcelone de Sergio Cabrera qui vient assister à une rétrospective de ses films à la Cinémathèque de Catalogne. À peine arrivé, il apprend le décès de son père. mort debout comme il a vécu. C'est l'expression que vous utilisez. Alors, ils avaient tous deux une relation...
Que le personnage utilise.
Le personnage utilise, bien sûr. Alors, ils avaient une relation très, très forte, hein, tous les deux. Il explique d'ailleurs qu'il n'avait jamais terminé un film sans se demander en lui-même ce que son père en aurait pensé. Pourtant, il décide de rester à Barcelone. Il décide de ne pas rentrer en Colombie et donc de ne pas assister aux obsèques de son père.
Oui.
Pour quelle raison ?
C'est ce qu'il s'agissait de... d'explorer. Ce sont des événements qui ont surpris. La décision de ne pas rentrer en Colombie a surpris Sergio avant tout le monde. C'était, il y avait quelque chose dans cette décision qui fonctionnait comme une sorte de métaphore de sa vie aussi, de sa relation avec son père, qui était une relation ambiguë, de tension, parce que son père lui avait hérité son métier, sa passion pour le cinéma, pour les arts dramatiques, qui a été par la suite la vie de Sergio, non, comme réalisateur colombien. Donc il y avait ce côté de son père. Mais de l'autre côté, son père était aussi le responsable d'une certaine démarche de la vie de Sergio qui l'avait blessé, qui avait laissé des traces inconfortables, douloureuses, dont parle le roman, le voyage en Chine, l'arrivée à la guérilla colombienne, avec toutes ces conséquences douloureuses. Et alors cette ambiguïté m'a toujours intéressé. L'ambiguïté de la relation père-fils, bien sûr, qui est aussi un conflit historique. Mmh. Une relation père-fils n'est pas seulement un conflit
intime,
familial, mais aussi historique. C'est le présent et le passé. Et j'ai vu que dans cette décision, il y avait comme la noix où était contenu tout un conflit énorme d'une famille entière. Et c'est comme ça que j'ai voulu commencer le roman par là.
Et donc il reste à Barcelone pour la rétrospective de son cinéma. Et l'annonce de ce décès, c'est aussi l'occasion pour lui de retrouver les images d'une autre rétrospective beaucoup plus personnelle. Celle-là, la rétrospective de sa vie à lui et de la vie de sa famille en général. Une rétrospective qui démarre d'ailleurs bien avant la naissance de Sergio, hein, puisqu'elle ne démarre pas en Colombie, mais en Espagne,
oui.
Avec la figure de l'oncle Felipe, qui s'est rebellé contre Franco au nom des principes de la République. C'est lui, au fond, qui a ouvert la voie. Quoi. C'est
oui.
Lui qui, d'une certaine façon, a permis à toutes les pages du récit futur de s'écrire.
Oui, et c'est une découverte que j'ai faite. Sergio ne l'avait pas remarqué quand on a parlé de sa vie. J'ai confirmé une idée que j'avais déjà eue quand j'écrivais d'autres romans, Les Dénonciateurs et Le Corps de Ruine en particulier. Et c'est l'ingrédient des forces invisible, des forces extérieures à nous, qui fait partie de nos décisions présentes toujours. C'est-à-dire, lorsque Sergio me racontait sa décision à 19 ans, 1969 donc, d'entrer à la guérilla colombienne, je me suis aperçu qu'il n'était pas seul dans la décision, qu'il ne prenait pas la décision tout seul, bien qu'il le croyait. Là, dans cette décision, il y avait aussi l'ombre du grand-oncle, du héros de la vie républicaine pendant la guerre civile. Je me suis rendu compte qu'un passé héroïque dans la famille pesait sur la décision de Sergio de se joindre à l'effort révolutionnaire de la guérilla maoïste en Colombie. Et cette analyse des forces familiales, des forces historiques d'une société, du passé de la famille aussi, de la société qui viennent pour en quelque sorte donner forme à nos décisions présentes, ça m'a semblé très intéressant et une des choses que seul un roman peut raconter.
Alors le père de Sergio, Fausto, a effectivement idéalisé un peu la figure donc de son oncle Felipe, qui a donc fait de la prison pour ses idées. Et Fausto va rejoindre la Colombie via la France, via la République dominicaine et le Venezuela. Et il va se découvrir une vocation d'acteur et de metteur en scène. Il va se consacrer au cinéma, au théâtre, au téléthéâtre aussi. Il va jouer Brecht en particulier, ce qui va lui attirer les foudres de tous ceux qui craignent que la contagion communiste venue en particulier de Cuba ne gagne la Colombie. Bref, son engagement à gauche, son engagement marxiste se voit de plus en plus. Il est de plus en plus critiqué aussi. Et c'est dans ce contexte qu'arrive une lettre d'invitation à partir à Pékin pour y devenir professeur d'espagnol à l'Institut des langues étrangères. Nous sommes à la page 96 de votre roman.
Plus qu'une bouée de sauvetage, cette invitation officielle était une déclaration d'amour à l'homme en disgrâce qui était devenu Fausto. Le gouvernement chinois lui proposait un salaire généreux en devises, un billet aller pour toute la famille et un logement confortable. Il promettait également au couple, mais non aux enfants, un aller-retour en Colombie tous les 2 ans. Il ne pouvait pas rêver mieux. Pour Fausto, l'idée de pouvoir sortir sa famille de cette mauvaise passe et la promesse d'un changement d'air qui serait sans doute bénéfique à sa relation avec Luz Helena était tout aussi séduisante que la possibilité d'étudier le théâtre en Chine en observant de près la révolution de Mao Tse-tung. À l'époque lointaine de la guerre d'Espagne, l'oncle Felipe lui avait déjà parlé de ce dirigeant qu'il avait décrit avec beaucoup d'admiration. Quant au théâtre, il s'était mis en tête, non grâce à Felipe, mais à un article de Bertolt Brecht, qu'il y avait beaucoup de leçons à tirer du drame traditionnel chinois. Comprendre le théâtre chinois lui permettrait de comprendre une facette de son art, ses ressorts politiques, qui n'avaient pas encore été exploités en Amérique latine.
Et si la Chine pense à Fausto, c'est parce qu'il est communiste, bien sûr. C'est parce qu'il est espagnol d'origine et donc qu'il est censé avoir un accent pur. Oui. Mais c'est aussi parce qu'il n'est pas, comme vous l'écrivez, Juan Gabriel Vázquez, parce qu'il n'est pas contaminé par les préjugés soviétiques. Et ça, c'est important parce que à ce moment-là, dans l'histoire, la Chine et l'URSS, ce sont certes deux États communistes, mais ce sont deux voies communistes complètement différentes. Il y a même une forme de défiance entre les Chinois et les soviétiques.
Oui, tout à fait. Et qui donneront lieu à des guérillas différentes. Les mouvements révolutionnaires en Amérique latine sont plusieurs. Et en Colombie, on a eu 3 forces de guérillas paysannes différentes. Il y a les FARC, qui sont donc marxistes, léninistes, côté soviétique plutôt. Il y a le ELN, qui sont plutôt cubaines, soviétiques, mais aussi cubaines, guevaristes, il s'appelle. Et il y a le EPL, la guérilla où Sergio et sa famille sont entrés, qui est maoïste. Donc, c'est aussi. Les romans aussi parlent de la grande idée du marxisme qui a donné forme au XXe siècle, n'est-ce pas ?
Mais, avec des enfants différents.
Oui, exactement. Mais sans oublier les différences, les nuances.
Voire les querelles.
Oui.
Et parfois même plus que des querelles, ouais. D'ailleurs. Alors, c'est dans ce contexte donc, que la famille Cabrera, donc Fausto, sa femme Luz Helena et leurs 2 enfants Sergio et Marianela, arrivent à Pékin. Alors, ils sont logés dans un hôtel, l'hôtel de l'amitié, qui abrite des diplomates, des étrangers qui ne sont pas autorisés à avoir leur chez eux, leur propre logement à ce moment-là. C'est un lieu assez incroyable. C'est un ghetto à l'envers, c'est l'expression que vous utilisez. Personne ne veut en sortir, tout le monde veut y entrer.
C'est l'expression de Luz Helena qui a trouvé ça, et moi je le trouve très juste. C'était un endroit mythique pour les gens de cette génération. Et pour moi, c'était une découverte énorme. Je n'avais jamais entendu parler de l'hôtel de l'amitié. Et l'idée de ce ghetto à l'intérieur de la vie chinoise, de la vie communiste, où on peut trouver des éléments de la vie capitaliste, de la vie bourgeoise, avec lesquels le système a une certaine tolérance, où on a une, je sais pas, des camps de tennis, on peut faire la natation dans une piscine olympique, et on a toutes sortes de privilèges. Et là, il y avait une tension très intéressante et très problématique pour la famille, parce que le père, qui était un fanatique des idées communistes, a décidé à un moment que ça ne marchait pas, que c'était trop bourgeois pour ses enfants. Et Voilà ce qui s'est passé après dans le roman.
Alors au départ, les enfants trouvent la nourriture infecte, hein, ils ne comprennent pas que leur père considère justement la Chine comme un paradis. Mais très vite, les enfants vont intégrer les nouvelles règles. Hein. La deuxième partie du livre, qui en est vraiment le cœur, la partie la plus vaste, la plus dense, elle est d'ailleurs intitulée « La révolution dans les hôtels », puisque c'est donc là, dans ce cocon doré, que Sergio et sa sœur vont recevoir leur formation révolutionnaire. C'est une sorte de lavage de cerveau, quoi. N'ayons pas peur des mots, Juan Gabriel Vázquez. Vous n'utilisez pas cette expression, hein, mais elle est non. Entre chaque ligne, finalement.
Oh, bon, moi, l'effort le plus grand que j'ai fait comme romancier, c'est de regarder le monde à chaque fois, dans chaque page, du point de vue des personnages, et assumer, en quelque sorte, leur point de vue moral, comme je disais avant, émotionnel, et aussi des formations politiques. Alors, j'ai essayé de ne pas, ni pour un petit instant, juger ces personnages du point de vue de mes convictions ou des convictions du moment présent que nous vivons. Et ça a donné un arc d'évolution de son idéologie qui, pour moi, est fascinant. Le passage de l'innocence à la conviction jusqu'au fanatisme. Et c'est une des questions qui règle en quelque sorte le roman. Comment naît le fanatisme? Comment est né un fanatique? Et ça, c'est un mot qu'ils utilisent, les personnages de mon livre et les personnages de la vie réelle. Ils l'utilisent encore aujourd'hui dans des interviews. Donc ça, je n'ai pas peur de le dire.
Et c'est vrai qu'on est vraiment au plus près, nous, lecteurs, de chacun et de chacune des personnages qui évoluent effectivement énormément d'un bout à l'autre du roman. Alors, ils apprennent le mandarin, ils apprennent la dévotion envers Mao, ils utilisent le petit livre rouge comme un viatique, ils dénoncent les bourgeois, ils critiquent l'impérialisme, en particulier l'impérialisme américain, bien sûr. Il y a aussi le soutien aux communistes vietnamiens, parce qu'il y a la guerre du Vietnam qui éclate. Il y a l'entraînement militaire aussi. Tout ça, vous le racontez dans des épisodes qui sont racontés avec beaucoup de verve, beaucoup de précision aussi. Et Marianella et Sergio vont devenir vraiment de parfaits gardes rouges. Oui. Ils apprennent aussi à fermer les yeux sur la pauvreté, sur les files d'attente interminables qu'il peut y avoir à Pékin. Ils ne se rendent pas compte de ça ou ils ne veulent pas voir qu'au fond, le système ne marche pas.
Il y a cette contradiction. Je crois qu'en même temps, il se rendait pas compte de tout ce qui arrivait parce qu'il voulait pas. Il voulait pas le savoir. Il y a cette scène où Sergio vient brièvement à Paris. C'est le mois de mars de 1968, juste avant les événements de mai. Et là, il rencontre des révolutionnaires, des jeunes parisiens révolutionnaires comme lui, maoïstes, mais qui connaît rien à la Chine. Et qui se demande, et qui le demande, qu'est-ce qui se passe en Chine? Est-ce que tout ce paradis dont on entend parler est vrai? Et Sergio, qui a déjà vu les excès de la révolution culturelle, les problèmes, les contradictions, les victimes, en somme, il dit, oui, c'est vrai. Tout ça est vrai. Tout marche parfaitement en Chine. Et donc, lui, c'est le premier à être conscient de la contradiction et de ce mécanisme mental, non, intellectuel que nous avons, les êtres humains, pour fermer les yeux devant tout ce qui va à la rencontre de nos convictions importantes. C'était pour moi fascinant de trouver ça chez eux.
Alors, vous parliez de la révolution culturelle. C'est très important, effectivement. Et c'est vrai qu'il se passe quelque chose, quand même, à ce moment-là, dans la tête de Sergio, lorsqu'arrive, donc, en 66, la révolution culturelle. Donc, l'idée, c'est de purger la société chinoise de ce que le maoïsme appelle les quatre vieilleries. Donc, les musées, les temples, les bibliothèques sont, comme ça, encore plus soumis à la censure et à la purge. Et puis, arrive un épisode qui pour moi est l'un des plus marquants du roman et qui en dit très long, ça se passe pendant le cours de dessin.
Oui.
Vous pouvez nous raconter en quelques mots ce moment-là.
Oui.
C'est vraiment un point d'orgue du livre.
Oui, je suis content que vous ayez choisi celui-là, parce que pour moi, c'était un des moments où je me suis dit, il faut que j'écrive ce livre. Après ma fascination pour le personnage de Sergio Cabrera, pour cette histoire, il y a eu deux ou trois moments de ces narrations où je me suis dit, là, il y a quelque chose de vraiment important. Il avait, je crois, 15 ans. Il était en cours à l'école en Chine, en cours de dessin. Et le professeur a remarqué que, du point de vue technique, de la aérodynamique, un avion américain marchait un peu mieux qu'un avion russe.
Voilà, avion militaire, militaire. En l'occurrence. Oui. Des avions engagés au
c'est
Vietnam.
C'est ça. Et c'était un constat technologique, disons. Mais son cours de jeune communiste, affecté par la radicalisation de la révolution culturelle, l'ont déclaré immédiatement ennemi du peuple, plus ou moins. Ils l'ont poursuivi, l'ont chassé de la classe. Et en dehors de la classe, le pauvre homme est tombé par terre sous les coups de ses étudiants. Et on a commencé à lui donner des coups de pied. Et là, il y avait Sergio qui regardait tout ça avec préoccupation. Mais aussi en se demandant si le fait de rester à la marge de tout ça ne lui faisait pas ne le faisait pas coupable de trahison. Mmh. Hein. Et alors il s'est approché et doucement, sans trop de volonté, il a donné aussi, lui, un coup de pied au professeur qui était tombé par terre.
Et il l'a regretté.
Il l'a beaucoup regretté par la suite. Mais là, quand il me racontait ça, je voyais le regret dans son visage. Mais je voyais aussi l'intérêt pour la tournure que ça peut prendre dans la vie d'un jeune. Non et c'était la première apparition de quelque chose qui peut ressembler au fanatisme dans sa vie.
Alors vous venez d'utiliser, en me répondant, Juan Gabriel Vázquez, l'expression « pauvre homme ».
Oui.
Pauvre homme, ce sont des mots que dit précisément Sergio dans cette scène de votre roman. Et sa sœur, Marianella, le reprend. Et elle lui dit « Non, c'est pas un pauvre homme, c'était un ennemi, il l'a bien mérité ». En fait, Marianella, elle est plus radicale, plus militante. Elle se pose finalement beaucoup moins de questions que son frère.
Oui, oui, Sergio, dans sa jeunesse, dans son adolescence, est toujours plus... Il a une tendance au doute plus marqué, à la réflexion. Marianella, par contre, tombe directement dans la militance. Elle est radicale, elle ne se pose pas de questions. C'est un personnage absolument fascinant que j'ai trouvé quand l'écriture du roman était bien avancée. J'avais écrit 100 pages, quelque chose comme ça, du point de vue de Sergio. Quand je me suis rendu compte que ce petit personnage qui était toujours à côté de sa sœur, qu'il fallait lui donner un peu de volume, disons. Mmh. Et j'ai demandé la permission de parler avec elle, ce qui n'était pas facile parce qu'elle n'avait jamais, mais vraiment jamais parlé de ces événements douloureux et traumatiques pour elle. Mais elle y a accédé. Je me suis dit, je vais lui parler une demi-heure et c'est très probable que je sois obligé à écrire une vingtaine de pages de plus. Quand j'ai terminé ma conversation avec elle, je pensais, il faut que j'écrive 200 pages de plus, parce que c'est un personnage extraordinaire qui donne un autre itinéraire au roman.
Voilà. Et en particulier, d'ailleurs, dans la dernière partie du livre, quand vous évoquez sa participation très active à la guérilla colombienne, avec des souvenirs aussi extrêmement douloureux. On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que ça donne au personnage une dimension à la fois très, très touchante, très attachante, très singulière. On ne peut pas rester insensible, effectivement, au personnage de Marianella. Alors justement, la sensibilité, c'est quelque chose de très, très intéressant. C'est puisque vous disiez à l'instant vous-même, vous ne vouliez pas prendre le risque de juger vos personnages. Et pourtant, de votre récit se dégage beaucoup d'émotions. Comment vous faites justement pour rester à la fois à distance en tant que narrateur et en tant qu'écrivain, tout en procurant justement ces émotions-là, des émotions parfois extrêmement fortes à vos lecteurs?
Oui, c'était une question de point de vue. Tout ça, à la fin, c'est la technique de l'écrivain. Non moi, j'ai eu la tentation d'abord d'écrire un livre où je participais. Et donc, le narrateur était Juan Gabriel Vázquez, qui découvrait l'histoire d'un ami, qui commençait à raconter l'histoire d'un ami. C'est une technique qui a été admirablement utilisée par des livres que j'aime bien, de Manuel Carrère, par exemple, de Javier Cercas, qui sont des écrivains que j'admire. Mais j'ai cru me rendre compte que ça n'allait pas marcher comme ça, parce que ma position dans le roman faisait une sorte d'interférence. Et j'ai décidé de m'effacer, de m'éliminer du roman, de prendre un point de vue à la troisième personne qui parlait du point de vue des personnages qui en quelque sorte habitaient la conscience de Sergio Cabrera et de sa sœur et de chaque personnage qui apparaît dans le roman, pour essayer de voir le monde à partir de ses yeux, de sa conscience, comme je dis. Et pour moi, c'est essentiel. Il y a un passage que j'adore des Testaments trahis de Milan Kundera, où il dit que le roman est l'endroit où le jugement moral est suspendu. Et pour moi, c'est très important d'ouvrir cet espace où le lecteur peut ne pas juger les personnages, ne pas les absoudre ou les condamner, mais essayer de les comprendre. Parce que moi, c'est ce que je fais avec eux.
Dernier extrait du livre, vous racontez, Juan Gabriel Vázquez, un important débat entre Sergio et une de ses camarades.
Les feux de circulation étaient au cœur du conflit. Ils avaient changé sur une décision des gardes rouges. Or, le régiment rebelle n'avait pas l'intention de rester à l'écart. Le rouge, symbole des gardes et de la révolution, et à leurs yeux synonyme de progrès, ne pouvait pas continuer d'être la couleur indiquant aux gens de s'arrêter. Dorénavant, le rouge signifierait qu'il fallait avancer, et inversement, le vert serait le signal pour s'immobiliser. Les groupes de gardes se répartirent les rues, armés de tournevis, afin de procéder aux changements nécessaires. Quand il s'ennuyait, Sergio sortait et allait jusqu'à un carrefour pour assister à cette singulière inversion chromatique, frissonnant à chaque fois qu'une voiture accélérait pour passer au rouge ou que de jeunes révolutionnaires attendaient que le feu soit vert pour brandir leurs pancartes ou traverser la rue au milieu d'une de leurs marches où ils encerclaient les accusés. Il aurait aimé avoir son appareil photo et immortaliser ces scènes, tout en sachant pertinemment que c'était une mauvaise idée. Dans le meilleur des cas, un occidental en train de prendre des photos serait considéré comme un provocateur et l'incident serait clos après la confiscation de sa pellicule et de l'appareil. Au pire, on l'accuserait d'être un espion et il passerait une nuit au commissariat du département de sécurité publique. Un jour, il se moqua de ce changement de couleur devant Lee, pensant qu'elle rirait avec lui, mais elle se renfrogna comme s'il l'avait insultée. « Quel est le sens des couleurs ?» lui demanda-t-elle. « Tu sais que le rouge de notre drapeau symbolise le sang de nos héros, n'est-ce pas ? Le sang de millions de camarades qui ont donné leur vie pour la République. Réfléchis un peu à ce que ressent un révolutionnaire quand il constate que d'autres personnes, dans un autre pays, ont décidé, à la légère, que le rouge, la couleur pour laquelle nous sommes prêts à nous sacrifier, équivaut à l'ordre de s'arrêter. » Si nous acceptons cela, nous devrons aussi accepter que les piétons cessent de marcher au rouge, au feu pour piétons. Or, nous ne sommes pas seulement des piétons, mais des combattants révolutionnaires, et nous ne voulons pas d'ingérence étrangère dans la révolution.
Alors, on est à la page 223 et 224 de votre roman. Là, on a envie de rire quand même quand on lit ça, Juan Gabriel Vázquez. Et pourtant, c'est édifiant.
C'est un côté comique, bien sûr, mais ce n'est pas une caricature. Ça s'est vraiment passé comme ça. Et c'était vraiment les mots. Lee était donc une sorte d'institutrice, pas une institutrice, mais il y avait quelqu'un dans le Parti communiste chinois qui était en charge des enfants occidentaux. Il y avait toujours là. Et Lee, c'était la femme en charge de Sergio et Marianelle. Et donc, oui, c'est exactement comme ça que ça s'est passé, malgré l'apparence de caricature que ça peut prendre.
Alors, il y a d'autres épisodes qui sont beaucoup plus terribles, à travers lesquels on se rend compte à quel point la société chinoise est une société de surveillance, de délation, de calomnie aussi, avec des conséquences sur les amitiés, sur les relations humaines, personnelles, amoureuses aussi de Sergio et Marianella. Alors, ils ne le vivent pas forcément bien, ces moments-là, mais plutôt que de rejeter le système, ils préfèrent culpabiliser.
C'est ça. Et ils l'ont vécu après avec une impression de une impression naturelle, non? C'était ce qu'il fallait faire pour les partis.
Mais ça va loin. Par exemple, pour Marianella, ils ont des amis britanniques qui s'appellent les Crook, et il y en a un, David, qui était pourtant extrêmement engagé politiquement, hein, donc c'était pas du tout un tiède par rapport à l'engagement maoïste, qui finit en prison, et Marianella n'a aucune compassion, semble-t-il, pour lui. « Oh bah, c'est vrai, il est en prison, donc il y avait une raison. » Elle ne doute pas du tout.
Il a dû faire quelque chose, n'est-ce pas?
Il y avait
toujours la possibilité de chercher une raison cachée pour sa culpabilité. C'était toujours comme ça. Alors là, ce sont encore des personnages réels. David Crook est un personnage très intéressant qui a connu, qui a été une sorte d'espion pour les communistes pendant la guerre civile espagnole, qui a connu Orwell, qui a dû... vigiler, non, pour suivre un peu, surveiller George Orwell pendant la guerre civile espagnole, et qui, à la fin de la Révolution culturelle, est entré en prison, accusé de crimes un peu abstraits. Donc, son fils, à lui, a été une sorte de petit ami de Marianella pendant ces années en Chine, et il m'a parlé aussi pendant la recherche pour le roman. Il m'a donné des informations absolument fascinantes. Il m'a montré les photos du journal chinois de Marianella, qu'elle écrivait en chinois. Et elle a traduit tout ça pour moi. Et donc, c'était comme une fenêtre qui s'ouvrait vers une réalité que je connaissais seulement à travers les yeux de mes camarades colombiens. Mais c'est comme ça que le roman est construit, non? C'est à partir de la mémoire des témoins directs.
Des bohémiennes de la Traviata de Verdi. Alors, nos auditeurs doivent se demander, Juan Gabriel Vasquez, qu'est-ce que ce morceau d'opéra vient faire là? Et c'est pourtant vous qui le racontez dans votre livre, c'est-à-dire qu'il l'entend, cet opéra, votre personnage, Sergio Cabrera, en plein cœur de la forêt colombienne, au cœur d'un camp des guérilleros marxistes de l'EPL, donc l'armée populaire de libération. Au passage, on lui fait quand même remarquer que l'opéra, c'est de la musique de bourgeois, donc c'est pas très bien vu. Et c'est assez symptomatique, finalement, du regard que ses camarades portent sur Sergio à ce moment-là du roman. Je pense en particulier à Fernando, qui est l'un des commandants du camp. En fait, toute son expérience chinoise, ça l'aide pas particulièrement à s'intégrer avec les autres. Au contraire, on le regarde d'un air un peu suspicieux.
Oui, on n'a pas encore parlé de ça, mais il faut savoir que Sergio et Marianela sont issus d'une famille bourgeoise. Donc le père exilé de la guerre civile espagnole et communiste rencontre à Medellín, en Colombie, une femme de la bourgeoisie de Medellín qui devient son épouse. C'est la mère de Sergio de Marianela. Et donc, il y a encore une contradiction dans leur vie. Ce sont des gens issus d'un milieu bourgeois qui vont faire la révolution avec des paysans qui, pour la plupart, ignorent tout sur le monde, non seulement le monde chinois, mais le monde extérieur à la jungle colombienne. Et il y a cet épisode où Sergio, qui a trouvé une radio, il commence à écouter cet opéra et il se fait engueuler par les commandants et les camarades parce que c'est une musique bourgeoise. Il y avait un écart très fort entre son expérience et sa perception de lui-même comme révolutionnaire et la perception qu'avaient les autres et qui a donné lieu à des complications. À des...
Ah oui, alors il y a énormément de péripéties la dernière partie du roman. On va évidemment pas raconter tout ça, mais il y a vraiment des moments très cinématographiques, en particulier dans cette partie du roman. Il y a des coups de feu, il y a beaucoup de cruauté, il y a du sang, il y a beaucoup de douleur à la fois physique et psychologique. Il y a des complots, il y a des trahisons, il y a des menaces, il y a des vraies et des fausses accusations. Et au bout de tout ça, il y a une forme de désillusion, finalement. Sergio se rend compte que la révolution, c'est pas du tout ce qu'il escomptait. Et il y a une question dans ce roman, à la page 410. Qui était Sergio Cabrera ? Je vous cite. Hein. Qui était Sergio Cabrera, hormis un raté ? Est-ce que vous avez écrit l'histoire d'un raté, Juan Gabriel Vázquez ?
Non, au contraire. J'ai écrit l'histoire de quelqu'un qui a survécu à des moments, à des défis énormes. C'est tout le contraire d'un raté. Sergio a fait, avec cette vie d'accident, cette vie d'aventure, mais aussi de beaucoup de douleur, a fait quelque chose de très beau à la fin. Et le roman, c'est une vindication aussi de sa vie de survivant et de la vie de sa famille aussi. C'était difficile à écrire parce que après ces événements douloureux, il y a eu une sorte de silence qui s'est installé sur la famille comme un tabou. On n'a jamais parlé des événements de la guérilla, des jours, même pas des jours de la Chine, jusqu'à maintenant, jusqu'au moment où Marianela a été d'accord pour me parler. Et j'aime bien raconter une conversation qu'elle a eue, Marianela, récemment, avec quelqu'un qui lui demandait « Mais en fait, ta vie, c'est quoi ?» Et elle a dit « Ma vie, c'est tout ce que ce livre raconte. » Et pour moi, c'était mieux que n'importe quel prix.
Merci beaucoup, Juan Gabriel Vázquez, d'être venu nous voir sur RFI dans VMDN. Une rétrospective, votre nouveau roman est donc paru, je le rappelle, en français aux éditions du Seuil, dans une traduction, je vais retrouver son nom, d'Isabelle Gugnon. Félicitations aux gagnants du jeu d'hier, Mbuyu Moreno de Lubumbashi, en République démocratique du Congo, Mohamed Bakari de Montreuil, en banlieue parisienne, Lucien Sanadogo de Ouagadougou, au Burkina Faso, et Aina Rakoto. Ils recevront l'album de Marie Jaffredo, Le Printemps de Sakura, paru aux éditions Vent d'Ouest. On se retrouve demain avec une autre bande dessinée qui raconte cette fois un des grands scandales politiques français, l'affaire Markovitch, un scandale qui a touché, c'est une sorte de complot en particulier, qui a touché Georges Pompidou et sa femme, qui pourtant n'y était strictement pour rien. On va parler de tout ça avec nos deux invités demain, les deux auteurs de l'album, Manu Cassier, le dessinateur, et l'historien Jean-Yves Lenaour, qui signe le scénario de cet album paru aux éditions Grand Angle. Dans une poignée de secondes, l'info, le journal sur RFI, à demain, et vous m'en direz des nouvelles.
Pour nous faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.